Habiter l'école, comment changer l'atmosphère?
Salut à toi, bienvenue sur Leader dans l'enseignement catholique, le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton école, ton collège ou ton lycée. Prêt? Allez, c'est parti pour un nouvel épisode.
Dans un monde en constante évolution où la transmission de l'information, le développement des compétences du futur, telles que la coopération, la créativité, sont devenus des impératifs, il est indéniable que le modèle traditionnel d'organisation en classe est en fin de vie. Et cette réalité nous pousse à repenser fondamentalement l'environnement scolaire dans lequel évoluent nos élèves. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pascal Clerc, qui est professeur des universités en géographie, et pour discuter avec lui de cette question, habiter l'école, comment changer l'atmosphère. Alors bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer et vous permettre aux auditeurs de savoir avec qui je parle, pouvez-vous nous dire comment on devient Pascal Clerc ?
Oula, ce serait long, très long.
Comme ça, vous dites ce que vous voulez.
Pour rester sur la partie, très professionnelle, je pourrais dire d'abord que j'ai passé ma vie dans des établissements scolaires, comme élève depuis la maternelle, puis comme enseignant au collège, puis comme enseignant au lycée, puis comme enseignant à l'université, avec des retours fréquents dans des écoles, des collèges et des lycées, comme formateur chargé d'évaluer les pratiques professionnelles des enseignants. Donc les lieux scolaires font partie de mon environnement. Ces lieux scolaires, je les ai toujours trouvés relativement hostiles, relativement froid, peu amène, peu facile à vivre. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que comme vous l'avez dit, je suis géographe et je travaille en particulier sur des petits espaces. On parle parfois de micro-géographie, hein. J'ai des collègues qui travaillent sur de petits espaces comme la plage, le lit, la chambre à coucher, la prison, etc. Moi, je travaille sur les établissements scolaires et j'ai la chance d'être membre d'un laboratoire qui s'appelle EMA, École Mutation Apprentissage. Donc un laboratoire qui est surtout un laboratoire de sciences de l'éducation, mais pas exclusivement. En tout cas, j'ai la chance de travailler au contact de spécialistes des sciences de l'éducation et personnellement, je me suis toujours intéressé aux enjeux relatifs à l'enseignement et aux apprentissages. Donc pour terminer sur ce point, je dirais que ma réflexion, elle est d'une part liée à cette expérience, à ces expériences pas forcément agréables dans des établissements scolaires et puis à une pratique professionnelle qui est à la charnière de la géographie et des sciences de l'éducation.
Ok, merci. Aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, il y a cette expression moi, qui m'amuse toujours un peu, à l'heure du numérique, de l'intelligence artificielle, à l'heure où on attend autre chose des élèves que d'être capable de répéter un savoir appris par cœur, hein, même si je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre par cœur. Est-ce qu'on a encore besoin de classes rangées en autobus, hein, donc les uns derrière les autres, avec le professeur devant Qu'en pensez-vous ?
Alors, je pense qu'on n'en a plus besoin. Je vais être plus précis. On peut en avoir besoin dans certaines circonstances, c'est intéressant. Mmh. Mais globalement, je pense qu'on n'en a plus besoin ou beaucoup moins besoin qu'avant. Je pense que ça fait très longtemps qu'en réalité, des pédagogues nous montrent qu'on peut faire autrement, et qu'on n'en a plus forcément besoin. Me vient immédiatement en tête la salle de classe de Célestin Freinet, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que la salle de classe, et la salle de classe en autobus en particulier, c'est un produit de la forme scolaire, telle que Guy Vincent l'a définie, donc cette espèce d'organisation, enfin c'est plus qu'une organisation, c'est une pensée de l'éducation qui se met en place à partir du XVIe, XVIIe siècle, selon Guy Vincent. Et cette forme scolaire, donc plutôt ce que la salle de classe représente dans le cadre de la forme scolaire, c'est à la fois une situation de transmission, hein, elle est faite pour la transmission, et une situation de contrôle, domination, enfin on peut le dire de diverses manières, plus ou moins fortes. Et ce que je veux dire, c'est que la salle de classe, elle a été pensée pour ça. Et aujourd'hui, à un moment où on peut s'interroger, mais je le répète, ça fait en réalité très longtemps qu'on s'interroge là-dessus, sur l'émancipation des élèves et sur d'autres manières d'apprendre qui seraient des alternatives à un modèle transmissif, eh bien, il est assez cohérent qu'on s'interroge sur la salle de classe qui, je le répète encore une fois, a été pensée pour ça. Moi, ce qui me frappe toujours, et pardon, on le voit aussi bien dans des...
On a eu une coupure.
Dans d'autres langues que le français, donc concernant d'autres pays, mais aussi depuis très longtemps en France, on voit assez bien que ces interrogations sur la salle de classe, elles sont extrêmement anciennes et qu'on peut penser les choses autrement. Ouais.
Alors, l'organisation spatiale, hein. D'une école, hein, ou d'une classe, est-ce que ça peut influencer l'atmosphère ou l'expérience des élèves et des enseignants ? Et en quoi c'est le cas ?
Oui, ça peut influencer, oui, bien sûr, ça peut influencer. On a des travaux en langue anglaise qui parlent de la salle de classe comme « the third teacher ». Le troisième enseignant, le premier enseignant, ce serait le professeur, le deuxième, ce serait les élèves qui s'enseignent, entre guillemets, eux-mêmes, mais je préfère dire qui apprennent eux-mêmes, et puis le troisième enseignant, ce serait la salle de classe, je veux dire les configurations spatiales. Bon, et puis il y a d'autres travaux, toujours en langue anglaise, qui évaluent à 15 ou 16% la part du lieu dans les apprentissages des élèves. Moi, j'ai toujours été un petit peu... sceptique par rapport à ces différents travaux. Je préfère inverser les choses finalement et dire que au cœur de l'éducation, il y a un projet éducatif. Et que pour mettre en place ce projet éducatif, on a tout intérêt à choisir les outils, et notamment les outils spatiaux, d'organisation spatiale, qui sont les plus pertinents. Mais je ne pense pas qu'il y ait un déterminisme spatial sur les pratiques. Je crois qu'il faut vraiment toujours partir du projet éducatif et puis construire des espaces en fonction de cela.
Ouais. Et comme vous le dites, l'école, bien sûr, est un environnement de transmission du savoir, mais pas uniquement. C'est un lieu où chacun, normalement, doit se retrouver. Et puis, c'est un lieu de vie, avant tout. Et donc, il y a des choses qui pourraient, toujours avec l'idée, voilà, j'ai ma classe en autobus, j'ai mon école qui est organisée de façon traditionnelle, on va dire, comment je peux améliorer tout ça pour permettre justement à ce que chacun puisse se sente à l'aise dans l'établissement ou dans la classe.
Mais je voudrais commencer par vous contredire. Je pense que malheureusement, l'école n'est pas vraiment un lieu de vie. Elle devrait l'être, hein, puisque les enfants y passent de nombreuses heures chaque jour, chaque semaine et durant chaque année scolaire. Mais en réalité, nos écoles, alors dans leur grande majorité, on ne peut pas totalement généraliser, oui, ont été pensées d'abord comme des machines à apprendre. Et donc, pas tellement comme des lieux de vie. Et j'en veux pour preuve le fait que ce qu'on appelle parfois les espaces interstitiels, comme la cour de récréation, comme les lieux de restauration, comme les couloirs, comme les toilettes, tout ce qui n'est pas directement lié aux pratiques d'enseignement, tous ces espaces interstitiels, pardon, ont traditionnellement été négligées dans les établissements scolaires. Donc je pense que on a à travailler, en effet, pour que nos écoles deviennent des lieux de vie, et peut-être d'ailleurs plus en France que dans d'autres pays, d'après certains résultats des enquêtes PISA. Alors pour revenir à votre question, comment faire ? De mon point de vue, le comment faire, il part d'un enjeu pédagogique. Comme je le dis parfois, le point de départ, ce n'est pas des fauteuils, des canapés, des poufs, des lieux plus agréables, repeindre de couleurs vives. Je ne dis pas que ce ne soit pas important, mais je dis que ça n'est pas le point de départ. Point de départ, c'est l'enjeu pédagogique. Et pour moi, l'enjeu pédagogique, aujourd'hui, c'est un changement radical de paradigme. Pour le dire simplement, nous sommes encore majoritairement dans un paradigme d'enseignement. Alors, je vais utiliser les mots enseignement et apprentissage de manière très spécifique. Je sais bien que dans le langage éducatif, parfois, on les utilise de manière un peu générique. Mais je vais les spécifier et les spécifier de manière géographique. On est dans un paradigme de l'enseignement. Enseigner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, étymologiquement, faire signe. Envoyer un signe de quelqu'un, dans ce cas précis, vers un collectif. C'est ce qu'on appelle l'enseignement simultané. C'est notre modèle. Donc, on peut avoir l'image de quelque chose, alors du savoir, des mots, des images, qui part de celui qui sait, entre guillemets, et qui va vers ceux qui ne savent pas. C'est notre modèle, c'est le modèle dominant. Ce modèle me paraît épuisé pour des raisons que vous avez énoncées, notamment liées aux compétences du 21e siècle qui attendent autre chose, et puis aussi du fait qu'on peut acquérir des connaissances par beaucoup d'autres moyens que la transmission. Ce modèle, ce paradigme, en fait, éducatif, je l'oppose à un autre paradigme éducatif, qui est un paradigme de l'apprendre. Apprendre et enseigner, géographiquement, spatialement, c'est complètement différent. Si l'enseigner, ça part de un individu, l'enseignant, vers un groupe, les élèves, apprendre, ça part de chaque individu élève qui va apprendre, c'est prendre, qui va prendre quelque chose dans son environnement proche, un petit peu plus loin, dans un livre, avec une posture spécifique, assis, couché, debout, en marchant, seul, avec d'autres, en faisant, en écoutant, en regardant. Je pourrais continuer la liste pendant très longtemps, mais là on arrive à quelque chose de singulier. Alors attention, quand je dis de singulier, d'individuel, ça ne veut pas dire l'individualisme, parce que je pense
que j'allais vous dire, oui.
se font très souvent collectivement. Mais voilà, en gros, pour moi, le changement de l'atmosphère des établissements, c'est de passer de ce singulier de l'enseignement, qui est un paradigme qui a l'âge de la forme scolaire, entre guillemets, à ce pluriel des apprentissages. Et ce pluriel des apprentissages, il va nécessiter d'autres organisations qui, à mon avis, peuvent changer l'atmosphère des établissements, puisque c'est notre thématique. Si je poursuis là-dessus, j'avais essayé, j'énonce parfois cela, j'avais essayé de faire une liste de ce que ça signifie que d'être élève dans une école. Alors, ce que ça signifie de manière dominante. Je vais vous en donner quelques éléments. Être élève dans une école, dans un modèle d'enseignement, c'est se déplacer en groupe, se déplacer d'un lieu à l'autre sous le contrôle et parfois la direction d'un adulte, se déplacer à heure fixe, faire des maths parce qu'il est l'heure de faire des maths, même si on voudrait faire des sciences à ce moment-là, s'arrêter de faire des maths parce qu'il est l'heure de faire des sciences, même si on voudrait terminer le travail de maths, s'asseoir pour travailler, et éventuellement s'asseoir à une place qui nous a été assignée, ce qui veut dire s'asseoir éventuellement à un endroit où on n'a pas choisi de s'asseoir, et à côté de quelqu'un, à côté de qui on ne voudrait pas s'asseoir. Je pourrais poursuivre la liste, mais ce que je voulais dire avec ça, c'est qu'en fait, si l'atmosphère des établissements n'est pas très agréable pour les élèves et pour les personnels, il ne faut pas les oublier, c'est aussi parce que tout est extrêmement contraint. Parce que nous sommes dans un modèle d'enseignement. Et un modèle d'apprentissage permettrait de nous libérer et de libérer les élèves d'une grande partie de ces contraintes pour construire selon leur rythme. Alors bien sûr, dans un cadre prédéfinis, hein, avec des objectifs, mais selon leur rythme, selon leurs envies, selon leur posture, selon leurs préférences en termes d'apprentissage, des modalités de cet apprentissage.
Alors, je pense avoir compris. Est-ce que vous auriez des exemples d'écoles en France ou ailleurs qui ont changé de paradigme ?
Alors, oui. En réalité, il y a de nombreux exemples. Et alors, soit qui ont changé, j'ai été un peu caricatural, hein, en opposant radicalement le paradigme enseignement et le paradigme apprentissage. En réalité, on a parfois des situations hybrides, donc le changement, il n'est pas toujours radical. Il peut se faire sur deux disciplines, voire sur une discipline et plusieurs classes, sur une journée de la semaine. Bon, il y a des adaptations, mais je pourrais donner, je vais vous donner quelques exemples, mais ce que je voulais souligner, c'est qu'en réalité, on a un peu partout en France et dans un certain nombre d'autres pays, mais je vois ça d'un petit peu plus loin, on a un peu partout en France de nombreux exemples d'établissements scolaires, d'écoles, de collèges, de lycées, où totalement ou en partie, on est passé d'un modèle à un autre. Par exemple, très récemment, je lisais un texte sur une école maternelle qui est située en Lorraine et qui a fait exploser les quatre niveaux, hein, tout petit, petit, moyen et grand, pour organiser le temps scolaire en fonction d'activités et donc de zones d'activité. On pourrait citer les écoles notamment dessinées par l'architecte danoise Rosanne Bosch, notamment l'école Vitra School Téléphone Plan à Stockholm. Je pourrais citer aussi une école dans laquelle j'ai fait un long travail de terrain au Brésil, à São Paulo, l'école Amorim Lima, où une bonne partie de l'emploi du temps a disparu, entre guillemets, au profit de parcours individualisés pour les élèves qui ont des objectifs à atteindre dans le cadre du programme. Tout ça fonctionne, hein, et fonctionne relativement bien.
Alors la difficulté peut-être, en tout cas pour nous, c'est qu'on a des professeurs, je pense au collège et au lycée, on a des professeurs par matière, on a des horaires contraints quand même. Et puis, que voulais-je dire ? J'ai oublié. Des habitudes aussi qu'il faudrait casser. Et c'est pas si évident que ça de d'exploser. Et puis voilà, au collège et au lycée, il y a les examens, donc il y a aussi toute cette organisation de préparation, etc. Pour lesquels il faut s'assurer que chacun est bien arrivé à bon port.
Oui, mais je vais commencer par le dernier point, les examens, et reprendre l'exemple de l'école brésilienne dans laquelle j'ai pas mal travaillé. C'est une école d'une zone plus ou moins... Alors, c'est pas une zone défavorisée, mais c'est une école publique. Les écoles publiques au Brésil sont beaucoup moins convoité que les écoles privées. C'est une école publique, avec un public assez mélangé. Bref, une école moyenne-basse. Hein. Mmh. Et ce type de pratique, parce que c'est la première inquiétude qu'on a, non seulement ça n'a pas affaibli les résultats de l'école aux examens, mais il y a des examens de l'État de São Paulo, hein, nationaux, entre guillemets, et mais les résultats ont progressé. C'est-à-dire que un élève qui va être concerné par ses apprentissages, et l'éducation, l'éducation nouvelle l'a montré depuis très longtemps, hein, ça ne va pas avoir un effet négatif sur les résultats scolaires. Pour moi, une des difficultés, elle est du côté des enseignants, qui et je les comprends tout à fait, hein, qui ont un peu de mal à changer de représentation sur ce qu'est leur métier, parce qu'on leur a appris, et les concours sont pensés comme ça, on leur a appris qu'être enseignant, c'était transmettre ce que l'on savait. Donc c'est un changement de posture qui n'est pas du tout facile, hein, pas du tout évident, que j'ai vécu en tant qu'enseignant lorsque j'utilisais ce type de méthode, lorsque j'étais enseignant en collège ou en lycée, je voyais mes élèves travailler, et puis je me disais, mais finalement, si je pars de la classe, là, si je quitte la classe pendant 5 minutes, il ne va rien se passer. Sous-entendu, à quoi est-ce que je sers ?
Oui.
Alors, en même temps, je me disais, c'est une remarquable réussite, j'étais très, très, très fier de cela, mais vous voyez, on peut avoir ce type d'état d'âme, quoi, sur notre utilité. Je crois que du côté des enseignants, il y a aussi une espèce de lâcher prise qui n'est pas évident. Lâcher prise sur un élève qui ne travaille pas. Lâcher prise sur une posture qui ne nous paraît pas compatible avec une posture scolaire. Mais bon, on s'intéresse beaucoup aux apparences. Hein. Une classe sage avec des élèves assis le dos droit face à l'enseignant et qui sont dans le silence, ça sera plus facile à accepter qu'une situation qui serait très différente de cela. Ça sera plus facile à accepter, mais ça ne garantit en rien que le travail soit fait. Et puis par rapport aux questions d'emploi du temps, moi je dis emploi de l'espace-temps, parce que ce n'est pas seulement un emploi du temps. Hein, sur l'emploi du temps, vous avez des salles, des lieux toujours qui sont désignés. C'est bien, pour moi, c'est la difficulté majeure, c'est le verrou majeur, c'est-à-dire qu'il faut être capable de casser cela. Et quand je dis, comme je le disais tout à l'heure, que lorsqu'un élève est en train de faire des maths et va un peu plus lentement que d'autres, mais que la sonnerie retentit et qu'il doit plier ses affaires pour sortir de la salle et pour aller faire des sciences et du français, je me dis qu'il y a quelque chose qui est absurde dans nos pratiques. Et donc, c'est ce changement-là qui est compliqué à mettre en œuvre. Cela étant dit, ça se fait, ça existe. Hein. Et puis après, alors c'était le dernier point que je voulais évoquer là-dessus, après, eh bien, on réaménage les établissements scolaires sur d'autres modèles que des empilements et des alignements de salles de classe pour répondre aux besoins des apprentissages.
Oui, ça c'est quand même un gros problème parce que toutes les classes, les écoles sont construites sur le modèle de l'autobus. Hein. C'est-à-dire que les architectes, les décideurs, etc. ont cette image de la classe et il faut mettre 30 élèves par classe parce que on a, entre guillemets, l'obligation d'avoir un nombre d'élèves par classe fixe et élevé.
Oui.
Et c'est compliqué.
Oui, alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on continue à faire comme ça. Et qu'on continue, alors même si les établissements scolaires paraissent un petit peu plus agréables qu'auparavant, et ils le sont sans doute, hein, que nos vieux bahuts construits à la fin du 19e ou dans la première moitié du 20e siècle, enfin même plus loin que la première moitié. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'on continue à produire ce type d'établissement. La bonne nouvelle, c'est que dans un certain nombre d'établissements scolaires, avec des moyens parfois limités, on arrive, entre guillemets, à pousser les murs, à reconfigurer à l'intérieur de, par exemple, à différencier les salles de classe, à garder une salle de classe où on va faire des moments de transmissif, puis la salle d'à côté, on va la couper en deux pour en faire des lieux de travail de groupe, par exemple. Donc, voilà, il y a quand même, on n'est pas forcément contraint d'engager de très très lourds chantiers, mais je le répète, le point de départ, c'est le projet.
C'est le projet, oui, c'est ce que j'allais dire. Très bien, bah, je vous remercie pour toutes ces réflexions qui ne peuvent que nous amener à réfléchir et à repenser nos espaces et le temps. Quel serait, pour terminer, j'ai quelques questions donc à vous poser. Quel conseil donneriez-vous à un chef d'établissement ou à des enseignants qui souhaitent initier des changements justement dans les espaces, temps de leur école, collège ou lycée ?
Alors, je ne pense pas être le mieux placé pour donner des conseils. Je pense que c'est vraiment aux équipes de prendre en charge cela. Je crois que la première chose importante, c'est le projet, hein, j'insiste encore là-dessus, mais le projet. Alors, projet d'un petit groupe d'enseignants, projet d'un collectif derrière un chef d'établissement. Et puis, une fois qu'on est engagé dans ce projet, accepter de lâcher prise, hein, accepter de voir des élèves qui circulent dans des couloirs, parce que ce n'est pas dans nos habitudes, hein, on a l'habitude qu'ils soient dans les couloirs à certains moments et pas à d'autres, voilà, qui circulent pour aller d'un lieu de travail à un autre, à redonner aux élèves la prise en charge, j'allais dire la responsabilité, peut-être que le terme est un peu fort, de leurs apprentissages. Parce qu'en fait, ils ne l'ont jamais eu. Mais je crois que c'est vraiment voilà, une équipe, un projet, ne pas partir tout seul dans l'aventure, hein, mais équipe.
Ça me fait penser à un établissement allemand dans lequel il n'y a pas de femme de ménage, il n'y a pas de surveillant. Et alors ça fait collège-lycée. Et donc, effectivement, il y a des espaces où collectifs, individuels, enfin, les élèves sont vraiment dans une très grande autonomie et le professeur ainsi que les aînés accompagnent aussi, interagissent avec les plus jeunes pour les aider dans leurs apprentissages. Et dans un établissement que j'ai dirigé, on a eu un échange, donc il y a des Allemands qui sont arrivés dans l'établissement. Et il y en a un qui a dit à mon collègue du collège, c'est étonnant en France, quand on croise un adulte, on a l'impression qu'on a fait une bêtise. Mmh. Voilà. Donc c'est là où ça nous a fait aussi un peu réfléchir sur la place de l'élève, hein, tout simplement, dans l'établissement scolaire. Parce que parfois, on a un peu l'impression de jouer au chat et à la souris avec les élèves qui cherchent à faire... des bêtises dans notre dos et nous on leur court après. Enfin bon, c'est parfois un peu compliqué alors que dans cet établissement-là, il n'y avait pas du tout cette relation. Très bien.
Oui, c'est vrai qu'il y a souvent cette idée que ça n'est pas possible. Ne pas surveiller en permanence les élèves, ça n'est pas possible. Et finalement, on se rend compte que... Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de petites incartades, hein, mais dans des situations où on fait plus confiance, ça peut se passer très, très bien.
Alors, maintenant, est-ce que vous auriez une lecture à conseiller ? Alors, ça peut être tout type de lecture, ça peut être en dehors de tout ce qu'on vient de raconter, une lecture qui vous paraît, pour vous, personnellement, importante.
Bah, par rapport à ce que vous... À ce que vous venez de dire, hein, de la surveillance du chat et à la souris, immédiatement, ça m'a fait penser à un vieux livre, « Surveiller et punir » de Michel Foucault, je trouve qu'il est toujours à reprendre, mais ce n'était pas de ce bouquin-là dont je voulais parler. Je viens de lire une bande dessinée en 3 volumes d'un auteur qui s'appelle Baru, bande dessinée qui s'appelle Bella Ciao, et qui raconte l'histoire de l'immigration italienne en France. Et j'ai trouvé que dans nos temps troublés, ce regard sur une altérité, alors ce regard à la fois affectueux, empathique, mais aussi qui relate une histoire un peu violente, hein, ce regard sur une altérité était plutôt salutaire et pouvait nous rappeler que le rapport à l'autre et la question de l'autre était vital pour vivre ensemble, en fait.
Merci bien pour cette idée qui va sans doute permettre d'agrandir nos bibliothèques. Dernière question, vous avez sans doute, vous avez forcément croisé des chefs d'établissement, des directeurs d'école, de collège, dans votre enfance comme dans votre métier d'aujourd'hui. Je vais vous demander de penser à un chef d'établissement qui vous a laissé une bonne image, qui vous a... j'allais dire émerveillé. Et puis maintenant, je vous demande de penser à un chef d'établissement qui vous a plutôt laissé un mauvais souvenir. Et pouvez-vous nous donner soit une qualité, soit un défaut de chef d'établissement ?
Alors, un chef d'établissement avec qui j'ai travaillé lorsque j'étais professeur de collège, que j'aimais beaucoup. Et alors, je ne sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas, son humanité, sa gentillesse aussi, ce qui pourrait paraître un peu paradoxal hein, pour un chef d'établissement, il y a le mot chef derrière, mais ça, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et l'établissement tournait bien. Pour la seconde catégorie, bah, je n'ai pas d'exemple à vous donner, peut-être que j'ai préféré les oublier.
Bon, après, on
Si
prend le
je
contraire.
cherche l'établissement-là.
Hein. Il suffit d'inverser. Donc, quelqu'un qui n'est pas humain et qui n'est pas gentil. Très bien. Un grand merci pour cet échange, tout simplement. Et puis, j'espère que ça va avoir, comment dire, éclairé les auditeurs et puis leur permettre de trouver de nouvelles idées dans leur métier. Merci
Merci à
beaucoup.
vous.
Nous voici à la fin de cet épisode de Leader dans l'enseignement catholique. J'espère que les discussions et conseils partagés aujourd'hui t'ont été bénéfiques et t'inspireront dans ton quotidien. Assure-toi de t'abonner pour rester à jour avec tous nos futurs épisodes. Ton avis est essentiel pour l'évolution de ce podcast. Je t'invite donc à partager tes réflexions, tes questions ou même à proposer des thèmes que tu aimerais voir abordés lors de nos prochaines émissions. Tu peux exprimer tout cela en laissant un commentaire ou en me contactant directement. Si tu as trouvé de la valeur dans l'épisode du jour, partage-le avec d'autres chefs d'établissement et amis dans le domaine. Merci de m'avoir accordé de ton temps aujourd'hui et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission enrichissante de Leader dans l'enseignement catholique. Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.